Bonjour à toutes et à tous, à chacun, à chacune. Je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Martine van der Merch, qui est présidente d'Autisme 28, mais qui est aussi présidente de la fédération du centre. Donc il y a des responsabilités tout à fait impressionnantes, et qui est aussi et surtout sans doute la maman d'un jeune autiste, une trentenaire. Et nous allons parler, Martine. On s'est rencontrés il y a quelque temps dans une conférence de presse et on s'était dit qu'il fallait qu'on se revoie pour reparler de l'autisme parce que, dites-vous, les gens savent peu de choses sur l'autisme. On a quelques images comme ça et elles ne correspondent pas toujours à la réalité.
Effectivement. Alors, c'est vrai que grâce au fait que l'autisme a été de grande cause nationale en 2012, on a pu avoir un certain nombre d'émissions de télévision, de messages grand public qui ont permis de mieux comprendre, mieux appréhender. Mais toutefois, les autistes qui viennent nous parler à la radio, à la télévision, ce sont des autistes dits Asperger ou de très haut niveau. Et très souvent, les familles nous disent: oui, mais vous savez, c'est pas ça que moi que je vis au quotidien. C'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus compliqué. Ils ne nous représentent pas. Alors, c'est vrai qu'ils ne représentent pas la majorité des personnes autistes ou des personnes présentant des troubles du spectre autistique. Mais en tous les cas, ils nous ont mieux fait comprendre ce qu'était l'autisme vu de l'intérieur. Et ils nous ont permis quelquefois, moi en tous les cas, ils m'ont permis de mieux comprendre certains fonctionnements très complexes de mon fils et très complexe d'autres personnes autistes, parce que eux le vivent. Donc, tout ce qu'on a pu mettre en place, toutes les structurations, toutes les approches cognitives et comportementales qu'on a pu mettre en place, eh bien, finalement, elles se trouvent vérifiées par ce que nous disent ces personnes-là. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'on a besoin de mieux comprendre et c'est ce que nous faisons actuellement d'ailleurs dans le département, puisque, parce que aussi, oui, c'est ce que vous disiez, j'étais présidente de la Fédération Autisme Centre et que nous avons monté en partenariat avec le Centre de ressources autisme de notre région, suivant un appel à projet national qui dépendait du troisième plan autisme, une formation des aidants familiaux. Une formation des mamans, des papas, voire des grands-parents qui quelquefois sont amenés à garder leurs petits-enfants autistes et qui ont besoin de savoir plus de choses pour mieux accompagner au quotidien leurs enfants. Et puis on leur présente aussi une formation juridique parce que mieux accompagner son enfant, ça veut dire quelquefois avoir des aides mieux comprises, des aides plus conséquentes, et avec une formation juridique, on peut mieux monter ses dossiers. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a besoin encore et toujours de parler de l'autisme, parce que vous savez, c'est 650 000 personnes en France. C'est un véritable problème de santé publique. Et malheureusement, nous avons encore beaucoup de retard. Nous avons une représentante de l'ONU qui est venue très récemment en France et qui a fait des préconisations et qui nous demande encore de travailler plus, qui demande à l'État de mettre plus de choses encore au service des familles, au service des enfants et des adultes. Parce que nous ne l'oublions pas, les adultes ont été les grands oubliés du dernier plan autisme.
Oui. Tout à l'heure, vous avez employé cette expression autiste Asperger. De quoi s'agit-il exactement?
Alors, il se trouve que maintenant, on va peut-être plus en parler, parce qu'on a des classifications. Parce que quand on veut parler de quelque chose, il faut que tout le monde, ou d'une pathologie, d'un handicap, il faut que tout le monde ait la même définition. Alors, il y a des définitions américaines, il y a des définitions européennes, et puis on avait une définition française. C'est ce qui nous a un petit peu mis dans l'embarras. Mais donc, on a une classification qui disait que on avait une triade autistique, c'est-à-dire que les personnes autistes présentaient des troubles de la socialisation, des troubles de la communication, et elles avaient des intérêts restreints et stéréotypés. Et puis, parmi tout cela, on avait certains groupes qui les présentaient bien, mais d'une façon différente. Et les autistes dits Asperger, vous savez, on pense à Reinemann, on pense à Joseph Chovanec, qui fait des conférences, qui parle 15 langues. Ils ont des compétences extraordinaire. Mais ils ont quand même des troubles, que ce soit de la communication, que ce soit de la socialisation. Et il faut bien s'y intéresser, il faut bien s'en occuper, même s'ils ne forment pas la majeure partie de l'iceberg que représente ces troubles. Donc, ce sont des personnes telles qu'on a pu les voir, telles qui viennent s'exprimer à la télévision, parce que effectivement, ils ont des facilités. Quelquefois, ils parlent comme vous et moi, peut-être même mieux que vous et moi. Ils ont des compétences, on a remarqué des compétences en informatique extraordinaires. En Israël, il y a des sociétés uniquement qui travaillent dans l'informatique. Les postes sont uniquement occupés par des personnes Asperger. Voilà. Chez Kodak en Allemagne aussi, ils emploient énormément de personnes Asperger et on a encore, nous, du travail à faire parce qu'elles ont du mal encore à trouver du travail. Mais on a la chance, nous, en Eure-et-Loir, d'avoir le seul service d'accompagnement spécialisé qui s'intéresse aux autistes Asperger, le seul de la région. Alors, il fait un peu figure de laboratoire, hein. Il a ouvert en octobre 2016 et là, actuellement, donc après un an à peine d'exercice, il y a à peu près entre 30 et 35 personnes qui sont suivies, des personnes qui étaient inconnues des services de la MDPH parce que justement, ils étaient passés un peu à travers les mailles du filet malgré toutes les difficultés qu'ils rencontrent dans la vie quotidienne. Et ces personnes, eh bien, on va les suivre et on va les suivre jusqu'à l'emploi. Mais il faut les aider, il faut les accompagner. Comme les autres, elles ont besoin d'accompagnement, mais d'un accompagnement différent, plus ciblé, plus adapté.
Alors, voilà. Ces autistes Asperger qui manifestent des capacités hors normes, dont parfois nous sommes, nous, dépourvus, ne sont pas la majorité, évidemment, de la maladie. Du handicap. Est-ce qu'on peut... alors, justement, tiens, voilà... Essayons de définir ce qu'est l'autisme. Ça n'est pas une maladie, c'est un handicap.
Voilà, c'est un trouble, ça fait partie de ce qu'on appelle les troubles neurodéveloppementaux. C'est-à-dire des troubles, c'est le cerveau qui ne s'est pas développé comme le cerveau dit normal. Et ça apparaît bien sûr avant la naissance. Alors moi je ne suis pas médecin, je ne suis pas chercheur, je ne suis pas scientifique, mais j'ai quelques notion parce que on va dans beaucoup de congrès, voilà. Donc apparemment, les personnes autistes, enfin présentant des troubles du spectre autistique, naissent avec un stock de neurones un peu plus important que les autres, mais de mauvaise qualité, qui se détruisent très vite et avant l'âge de 2 ans. C'est pour ça qu'on dit que l'autisme, de toute façon, se diagnostique avant 2 ans, les troubles apparaissent avant 2 ans. Moi, je vais vous parler de mon exemple, parce que je crois que c'est assez... j'ai un fils qui n'a pas beaucoup de déficiences intellectuelles, mais qui présente un autisme très sévère. Et donc, jusqu'à l'âge de 2 ans, il nous semblait qu'il avait un développement normal. À la lumière de ce que je sais maintenant, ce n'est pas vrai. Il présentait déjà des troubles, et notamment des troubles sensoriels importants. Mais à l'âge de 2 ans, il a perdu la parole. Il souriait, il a perdu le sourire. Il regardait, il vous regardait comme je vous regarde là actuellement. Il a perdu le regard, c'est-à-dire qu'il était incapable de regarder quelqu'un. Il ne regardait que des objets. Il a perdu l'appétit, il a donc eu des troubles de l'alimentation extrêmement importants. Il a perdu la propreté, il a perdu le sommeil. Pendant 3 ans, je lui ai tenu la main pour qu'il dorme, parce que sinon il ne dormait pas. Et donc, vous imaginez l'angoisse de la famille face à une telle régression face à un handicap aussi important. Et puis, en travaillant, mais nous, on n'avait pas du tout de prise en charge d'accompagnement adapté, puisqu'il est né en 1984, et que la première circulaire qui a vraiment lancé l'accompagnement des personnes autistes, c'est celle de 1995 de Madame Veil. Hein. Donc, merci beaucoup aussi à Madame Simone Veil, parce que nous lui devons tout en France. Donc, jusque-là, un accompagnement, oui, mais non adapté. Et nous, on s'est un petit peu... Voilà, on a fait ce qui nous semblait devoir être fait. Il a retrouvé la parole. Maintenant, il parle. Il a 34 ans. Il va avoir 34 ans. Il parle. C'est pas Proust, hein, c'est pas Balzac. Mais il parle. Il a un téléphone portable. Il sort sur Internet. Il tape des textes sur Internet. Il a retrouvé une alimentation normale. Bon, il dort il dort 6 à 7 heures par nuit quand même. Il fait énormément de sport. Il descend des pistes noires beaucoup mieux que moi. Enfin, voilà. Donc,
des progrès spectaculaires.
Des progrès spectaculaires. Et il n'a été diagnostiqué qu'à l'âge de 16 ans. Par le docteur Jacques Constant, Ce qui veut dire que les petits-enfants maintenant qu'on diagnostique vers l'âge de 2 ans, puisque nous avons en Eure-et-Loire une unité de diagnostic et d'accompagnement précoce, comme dans tous les autres départements de toute la France, mais la nôtre, elle fonctionne plutôt bien. Maintenant, qu'ils sont diagnostiqués précocement, que les familles sont plutôt formées, que les professionnels sont formés, on peut espérer, même dans les cas les plus sévères, d'avoir des progrès. Alors certes, ils vont peut-être pas pouvoir travailler, ils auront pas, mais ils auront une vie qui ressemblera à une vie assez normale. Et en tous les cas, ils pourront, parce que pour moi c'est très important, prendre du plaisir.
Oui, c'est ce que je voulais dire.
C'est très très important. Ce qui est très important, c'est que chacun a sa place. Moi, mon fils, il m'a certainement fait progresser et plus que je ne l'aurais imaginé, fait faire des choses plus que je ne l'aurais imaginé. Donc, chacun de nos enfants, il a sa place parmi nous et il nous montre des voies qu'on n'aurait pas forcément imaginées. Par contre, il faut que nous, parents, nous soyons extrêmement mobilisés. Il faut qu'on laisse rien passer et il faut qu'on s'aide mutuellement de façon à ce que chacun trouve sa place.
J'imagine que c'est un des travaux, une des missions de votre association, l'entraide.
Alors, notre association est une association, alors je parle d'Autisme Eure-et-Loire, hein. C'est une association qui a été fondée par des familles en 1994, qui étaient soucieuses du devenir de leur enfant. Ils voyaient que leur enfant devenait adulte et à ce moment-là, il n'y avait rien, soit rester à la maison, soit l'hôpital psychiatrique. Nous avons eu la chance, encore en Eure-et-Loire, d'avoir un président du Conseil Général, le docteur Martial Taugourdeau, qui a pris les choses à bras-le-corps avec cette circulaire de Madame Veil et qui a facilité les choses. Il a mis tout le monde autour de la table et il a dit, voilà, on va créer un établissement pour adultes autistes dans notre département. C'était le premier de la région. Et donc, il a été ouvert en 1999. Alors, ce qui veut dire qu'il va avoir bientôt 20 ans, ce qui veut dire qu'il faut toujours remettre son métier sur l'ouvrage. Les choses progressent, la recherche progresse, on a appris beaucoup sur l'autisme. Et donc, il faut que cet établissement, et c'est ce qu'il fait, il s'adapte à ce qu'on fait maintenant. Donc, notre association, toujours une association de famille, pour les familles, en soutien aux familles et en soutien aux professionnels, parce que les professionnels, c'est ceux qui accompagnent nos enfants. Et donc, si on forme aussi, si on aide les professionnels, nos enfants seront mieux pris en charge, mieux accompagnés, et automatiquement, ben, les familles seront soutenues, parce qu'elles verront aussi des progrès, parce que c'est ça qui importe. Et puis, le souci, c'est le devenir de nos enfants quand nous ne serons plus là. Ça, c'est un point très, très important.
Est-ce qu'on en est où, justement ?
Alors, justement, nous, on a souhaité, on gérait cet établissement qui s'appelait La Chanterelle, qui est devenu la Maison Saint-Philbert, et on s'est posé la question, que vont devenir nos enfants quand nous ne serons plus là ? Donc, il fallait qu'on trouve une association qui reprenne cette maison, mais une association pérenne, une association dont on soit sûr que dans 15 ans, dans 20 ans, ce soit toujours la même association. Parce que nous, ça s'appelle le médico-social. Quand on travaille, quand on transfère une association à une autre, il faut être sûr que cette association, elle va pas être cette reprise par une autre et qu'un jour, en fait, ben, tout ce qu'on a mis en place se soit rayé de la carte parce que ça coûte trop cher, parce que c'est plus la priorité de cette association. Donc, on a choisi l'Ordre de Malte qui avait déjà des établissements pour adultes, qui avait déjà les mêmes valeurs que nous, qui voyaient les choses de la même façon. Et depuis 2012, l'établissement est géré par l'Ordre de Malte. Mais nous sommes restés des partenaires. Et des partenaires, je crois, reconnus par l'Ordre de Malte France. Et on travaille vraiment la main dans la main. Voilà. Et donc, alors voilà, c'est la question. Vous me disiez, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Ben, on sait déjà qu'au niveau associatif, il y a pérennisation. Et ça, c'est très, très important pour nous. Après, ben oui, il faut mettre en place le plus de choses possible pour que nos enfants progressent le plus possible, pour qu'ils soient le plus autonomes possible, pour que le jour où nous ne serons plus là, ben on est quand même, on les ait fait progresser au maximum.
Alors, en Eure-et-Loire, à partir du moment où le diagnostic est fait,
oui.
Qu'est-ce qui se passe ?
Alors, le diagnostic est posé, c'est unité de diagnostic et d'accompagnement précoce. Ce qui veut dire que on fait pas simplement le diagnostic et puis débrouillez-vous avec ça. Non, on va tout de suite monter un plan d'accompagnement. Et avant que la maison départementale de l'autonomie ait statué, si vous voulez, et fait passer ça en commission, on met déjà tout en place. parce qu'il y a un réel travail de partenariat entre cette unité de diagnostic précoce qui est gérée par la Maison départementale des personnes autistes et la MDA. Vous savez, on se connaît tous et on travaille réellement, oserais-je dire, la main dans la main.
Oui.
Parce qu'il y a la volonté que ce soit au bénéfice de la personne et qu'on réponde au plus vite aux besoins de l'enfant. Parce que ce qui est important, c'est que le petit enfant, son cerveau, il est très malléable. Donc, si on agit très tôt, on va pouvoir le faire progresser. Mais il faut que ce soit fait par des professionnels, j'insiste bien. Parce que justement, on le sait bien, on la connaît cette malléabilité du cerveau. Vous savez, dans les pays totalitaires, on la connaît. Et on sait bien que plus on forme les enfants tôt, plus on va leur inculquer les choses que l'on veut leur inculquer. Mais nous, on veut pas faire du bourrage de crâne, on veut pas faire du lavage de cerveau, on veut qu'ils progressent. Et c'est vraiment ce qui se fait grâce à ça. Donc, après, alors, soit ils sont pris en charge par les hôpitaux de jour. Hein, vous savez qu'on a plusieurs hôpitaux de jour en Eure-et-Loir. On en a un à Dreux, le CEDRA. On en a un à Chartres, l'Uditède. On en a un à Châteaudun et on en a un à Nogent-le-Rotrou. Donc, après, ils peuvent être pris en charge en proximité avec cet accompagnement qui aurait été mis en place. Certains vont intégrer, mais très peu, l'unité maternelle d'enseignement autisme. Sept enfants, ce sont des unités maternelles qui sont mises en place dans toute la France. Ça, c'est le troisième plan autisme. Sept enfants, c'est très peu. Et puis, ça répond pas forcément au problème de la ruralité. Quand vous habitez à la Bazoges-Gohé, que votre enfant vous propose qu'il vienne tous les jours à Chartres, c'est pas possible. Un tout petit 3 ans, on va pas lui faire faire 1 heure et quart de voiture le matin et le soir. Il va tout perdre, si vous voulez. Il va régresser parce que c'est trop lourd, c'est trop compliqué. Donc ça, c'est un souci qu'on a eu. Il faudrait peut-être qu'on réfléchisse pour le quatrième plan autisme à faire des plus petites unités, plus en proximité. Bon, voilà. Mais ça existe. Ça existe. Ces unités maternelles d'enseignement, elles existent sur tous les départements. Elles se sont articulées entre elles pour mieux, faire remonter leurs forces et leurs faiblesses à chacune. Et puis, quand on se connaît, on travaille mieux et ça permet d'avancer. Après, nous avons le CESA d'autisme. 6, 24 ans. C'est unique. Les autres CESA ne vont que jusqu'à 20 ans. Nous, parce que c'est le docteur Constant qui l'avait mis en place en l'an 2000, et je le connais parce que mon fils a été le premier à y rentrer, jusqu'à 24 ans. C'est très important, ça nous permet de plus travailler sur l'âge adulte, d'avoir moins de soucis. Ça stoppe pas à 20 ans, ouais. Voyez, on va un peu plus loin.
Un autiste peut progresser toute sa
vie. Toute sa vie. Et mon fils en est vraiment le vivant exemple. Hein. Diagnostiqué à 16 ans, donc ça fait maintenant 18 ans, mais il a progressé d'une façon extraordinaire. Je n'imaginais même pas qu'il puisse progresser comme ça. Hein. Donc voilà, on a le CESAD, et le CESAD, ce service d'accompagnement à domicile, il va pouvoir intervenir à domicile, mais ce qu'on appelle le domicile, là, c'est plutôt l'école ou l'IME. Et on est quand même, là aussi, avec un accompagnement. Alors certes, qui va pas être forcément... Il y a des familles qui vont nous dire « Non, moi, je suis pas satisfaite. » Forcément, parce que on peut pas satisfaire tout le monde. Et puis parce que les temps peuvent être un petit peu trop réduits pour certains. Mais voilà. Et on a, parce qu'on a ce qu'on appelle en Eure-et-Loir, quelque chose qui est unique encore, la filière autisme pour les enfants. C'est-à-dire qu'on a un guichet unique. On a un numéro de téléphone et là, vous allez pouvoir contacter quelqu'un qui va vous répondre et qui va vous rencontrer, vous donner, mettre en place des rendez-vous avec le pédopsychiatre, avec l'unité diagnostique, avec le CESAD, de façon à ce que votre enfant soit pris en charge. Nous sommes le seul département et nous l'avons fait remonter dans le cadre des travaux qu'on mène pour le quatrième plan autisme, de façon à ce que ce soit un modèle pas seulement pour notre région, mais quasiment pour la France.
L'intégration scolaire des autistes existe-t-elle? Est-ce qu'elle vous donne satisfaction?
Alors, vous voyez, aujourd'hui, il y a une réunion à l'Éducation nationale dans le cadre du quatrième plan autisme pour débattre de ces sujets-là. Alors, l'intégration scolaire, elle nous pose quelques petits problèmes. C'est important, hein. On travaille pour cette intégration scolaire, pour que l'enfant ne sorte pas de l'école. C'est d'ailleurs le vœu de Madame Cluzel, la secrétaire d'État. Hein. Elle est venue récemment en Eure-et-Loir, hein. On a pu la rencontrer, et c'est vraiment, elle, c'est plus qu'elle milite, elle ne veut pas que les enfants sortent de l'école. Mais pour que les enfants ne sortent pas de l'école, il faut qu'ils soient accompagnés. Et donc qu'ils aient une, ce qu'on appelle une AVS. Nous n'en avons pas assez, elles ne sont pas suffisamment formées. Je crois que les choses vont aller dans ce sens, mais il faut continuer à le dire et à le redire. Des AVS. Quand les enfants vont dans des unités d'inclusion, les ULIS, malheureusement, dans les ULIS, on peut pas avoir d'AVS individuelle. Ce sont des AVS, ce qu'on appelle les AVS collectives. Et là, ça va pas. Il faut vraiment qu'on se penche sur ces problèmes des AVS et puis que on n'est plus de raté, c'est-à-dire qu'un enfant autiste qui a une AVS le vendredi soir de la veille de la rentrée et qui le lundi matin se retrouve sans AVS.
Ouais.
Alors, bon, on est obligé d'un petit peu secouer le bocal pour que les choses se remettent en place. Il nous faut plus d'AVS. Il faut vraiment... Nous, on milite vraiment pour que les enfants aillent à l'école. Parce que c'est comme ça qu'ils sont inclus. C'est qu'il faut pas les sortir pour essayer de les remettre. Il faut qu'ils restent à l'école. Et c'est possible avec un accompagnement. Alors, peut-être qu'il y en a pour qui ce sera pas possible. Mais avec un bon accompagnement, c'est très certainement possible. On le fait ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on le ferait pas en France ?
Il nous reste 5 minutes. Je voudrais qu'on parle, moi, de l'aide aux aidants, c'est-à-dire l'aide aux parents d'autistes. Il se trouve que je connais une personne dont l'enfant est autiste. C'est épuisant pour des parents, bien souvent, et il y a la nécessité de leur venir en aide.
Alors, c'est épuisant, oui, parce que il faut comprendre cet enfant qui a des réactions qui ne sont pas les mêmes, qui a des troubles sensoriels extrêmement importants. Hein, quand on est enfant, on a des troubles, on peut être hyper et hypo sur tous les sens et ça complique la vie d'une façon terrible. Alors donc, aide aux aidants, nous, on essaye de mieux les former. Il y a aussi autre chose. Je suis vice-présidente d'une autre association qui s'appelle Les Autres Parents, qui a été créée par un Lions Club et qui propose aux familles 4 heures de garde tous les 15 jours, entièrement gratuite pendant 1 an. Alors,
Ça, c'est important.
Il faut le savoir. Donc, les autres parents, je pense que vous avez peut-être une page internet sur laquelle on pourrait mettre après l'adresse internet.
Absolument.
De cette et le numéro de téléphone. Nous avons 10 enfants qui sont gardés actuellement cette année. Nous faisons des collectes de fonds. Hein, de façon à ce que ce soit entièrement gratuit pendant 1 an. Et ça permet après de donner de la confiance aux familles. Et après, elles peuvent trouver d'autres services. Il y a la SPIC aussi qui propose une aide, mais qui est une aide payante. Hein. Mais après, quand on a appris l'habitude de faire garder son enfant et de pouvoir souffler, parce que c'est ça qui est important, soit pour pouvoir souffler à deux, pour avoir un peu de vie de couple, soit pour pouvoir souffler avec ses autres enfants, parce qu'ils ont besoin eux aussi de pouvoir être avec papa et maman sans être avec leur petit frère ou leur petite sœur ou leur grand frère, et peut-être même retrouver des liens familiaux qui se sont distendus, parce que la socialisation, le manque de socialisation de cet enfant, c'est aussi le manque de socialisation de la famille. Vous savez, quelquefois les amis, même les très proches, ils ont du mal, parce que c'est très compliqué. Moi, quand on était invité à dîner, mon mari allait à 8h30, et moi, j'arrivais à 22h, parce qu'il avait fallu que je reste avec mon fils pour qu'il s'endorme. J'avais après une babysitter à la maison, qui m'appelait s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais je restais jusqu'à ce qu'il s'endorme, parce qu'il ne s'endormait qu'avec moi. Donc, vous voyez, voilà, tout ça, c'est des choses qui se mettent en place, mais les autres parents, c'est vraiment un service et il faut que les parents en profitent. C'est pas qu'à Chartres, on peut le faire dans d'autres villes, on peut le faire ailleurs. On a des demandes à La Loupe, on a des demandes à Nogent, à Châteaudun, voilà. Mais c'est vraiment un service que cette association rend et moi, je suis très fière de pouvoir en être le porte-parole.
Est-ce qu'il y a une formation aussi des parents pour parer, par exemple, à des crises, etc. Il y a un savoir-faire qui...
Alors voilà, mais alors la formation que nous dispense la formation des aidants familiaux qui va se terminer là le 18 novembre, que nous allons refaire l'année prochaine, c'est justement ça, si vous voulez, c'est apprendre à mieux connaître son enfant, apprendre à mieux jouer avec lui, apprendre à connaître mieux les troubles sensoriels qui sont générateurs de troubles énormes et qui peuvent provoquer des crises parce qu'on ne sait pas comment faire. En fait, la gestion des crises, c'est de la prévention. Mieux connaître, ça va permettre de prévenir, ça va permettre de mettre en place de la structuration et ça va permettre de faire que cet enfant, il va savoir exactement, il a besoin d'anticipation. Et là, il va savoir exactement ce qu'on attend de lui. Et puis, on va lui donner des outils de communication. Et la tablette numérique, c'est un exemple extraordinaire. Ça va permettre à cette personne qui est non-verbale de pouvoir s'exprimer. Et les parents, on va pouvoir aussi les former à ça, à mieux utiliser des logiciels, mieux s'emparer de ces outils de communication. Mais si on n'a pas ça, un papier et un crayon, on fait des petits dessins et on explique à la personne. Parce que une personne autiste, son canal de communication, ce n'est pas l'oral, c'est le visuel. Donc si elle voit ce qui va arriver, elle va mieux le comprendre, elle va mieux l'anticiper et elle va mieux gérer les troubles de comportement qui pourraient venir. Alors tout ça, ça paraît extraordinaire, là comme ça, quand je le dis comme ça, mais tout ça, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est un long apprentissage de la famille, des professionnels, et apprendre à mieux connaître son enfant, c'est aussi apprendre à mieux vivre avec lui.
Merci beaucoup Martine van der Merch, merci d'être venue jusqu'à nous. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Autisme 28 et aussi la présidente de la fédération centre de
Autisme. Merci à vous de m'avoir interviewé et que j'ai pu exprimer justement ce que les familles ont à dire sur ce handicap.
Such a whore, so self-aware, so full of shit, so indecisive, so adamant. I'm contemplating, thinking about thinking. It's overrated, just get another drink and watch me come undone. There's suit. So damn ugly, so damn cute. So well trained, so animal. So need your love, so fuck you all. I'm not scared of dying, I just don't want to. If I stop lying, I just disappoint.